Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Bernard Raymond. Bernard Raymond est théologien et professeur honoraire à la faculté de théologie de Lausanne ou Genève ?
Lausanne.
Lausanne,
ouais,
d'accord.
Il ne faut pas confondre. Hein.
Ok, on ne va pas confondre. Donc, Lausanne. Mais de toute façon, cette fois-ci, on ne va pas parler théologie, on va s'éloigner même de la théologie. À quelques jours de Noël, nous allons avoir une émission païenne, enfin apparemment très païenne. Alors, pour un universitaire renommé comme vous, ce n'est pas très fréquent de pratiquer le genre de conte pour enfants. Alors, qu'est-ce qui vous motive, Bernard ? D'abord, bonjour. Qu'est-ce qui vous motive dans la rédaction de ces contes ? Un professeur de dogmatique qui écrit des fables, ce n'est pas sérieux, si ?
Ah, d'abord, il ne faut pas oublier que j'ai été enfant, que j'ai été jeune, que j'ai aussi été pasteur de paroisse, et puis père de famille, et puis grand-père et arrière-grand-père. Bon, dans mon enfance, l'une des principales choses qui me restent des cultes dans le temple que nous fréquentions à Lausanne, c'était le grand temple Saint-François, c'était les fêtes de Noël et particulièrement les contes que racontaient les pasteurs. C'était peut-être de très bons conteurs, mais j'aimais beaucoup ça. J'arrive en faculté de théologie, j'entre dans le ministère pastoral, je découvre que les contes de Noël n'étaient plus à la mode. Oh non, c'est un genre qui n'est pas sérieux, c'est pas assez théologique, on est dans le fantasme, etc. Et moi, j'en gardais un très bon souvenir. Et je me disais, pour que j'aie gardé un bon souvenir, il faut croire qu'à travers ces histoires, presque ces historiettes, eh ben, les pasteurs arrivaient à faire passer quelque chose.
Alors, pourquoi les contes de Noël ? Pourquoi spécialement à Noël ? Est-ce que là, c'est le pasteur qui prend le dessus sur le conteur ?
Ah ben non, c'est qu'à Noël, il y avait ces fêtes de Noël, et puis je me suis dit, ben maintenant que la première fois qu'est venu un Noël paroissial, où il y a les parents, les enfants, tout le monde est là, c'est un peu une fête, c'est pas tout à fait un culte, c'est au temple, mais voilà. Eh bien, je vais leur raconter une histoire. Il y avait encore des pasteurs qui composaient des contes, certains très malins, mais j'ai découvert que je ne savais pas très bien raconter les contes des autres. Alors je me suis dit, ben, le plus simple, c'est que je me mette à inventer des contes moi-même. Mais le hic, c'est d'avoir une idée. Alors par exemple, en cette année 2024, eh bien, j'ai une fois de plus écrire un conte de Noël. J'ai un de mes amis qui, pour ses fêtes de famille, attend toujours que je lui envoie un nouveau conte. Mais je n'ai pas d'idée pour le moment. Et je ne sais pas pourquoi, l'idée me vient généralement au dernier moment. Alors voilà.
Peut-être comme les prédications. Quand vous faisiez une prédication, c'était peut-être au dernier moment, non ?
Ah non, 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 non. Une prédication, ça se prépare. Notre professeur d'homilétique nous disait « Votre sermon doit être écrit le jeudi à midi ». Il était écrit le jeudi à midi, ce qui donnait le temps de le mémoriser.
D'accord.
Non, non, les prédications, c'est autre chose. Ni qu'un conte, il faut garder un certain sens d'improvisation au moment de le raconter aux enfants, parce qu'ils réagissent. Et puis, quand on le couche sur le papier, il faut qu'il soit assez bref, et puis tenter dans la formulation de garder quelque chose de l'improvisation. Alors, les contes, dans le fond, de quoi est-ce qu'ils s'inspirent ? Mais ils racontent des histoires et ils ne sont pas très loin de ce qui se passe dans les évangiles. On raconte des histoires dans les évangiles.
Oui, alors je voulais qu'on en vienne justement à ça, et notamment le premier, enfin le conte qui nous intéresse ou l'histoire qui nous intéresse, la vraie histoire de Noël ou du moins telle qu'elle est racontée dans la Bible, dans l'Évangile. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'abord, qu'on ait un petit peu de théologie quand même avant de partir sur
Ah
les
voilà,
côtés
alors là,
païens.
je vais dire ce qui vous peut-être quelques auditeurs va paraître une grande hérésie, c'est que ces récits dits de l'enfance n'ont pas de valeur historique. Ce sont des récits qui ont été construits petit à petit, racontés. Et la preuve, c'est que les deux premiers évangiles, le premier et le troisième évangile, Jean, pardon, Matthieu et Luc ne racontent pas la même chose. Marc n'a pas de récit des évangiles. Et puis quand Jean doit parler de ça, il raconte une histoire tout à fait différente. Il parle de la parole.
De la parole,
Au commencement,
oui.
c'était la parole. La parole était avec Dieu. Ce n'est pas un récit. Mais en revanche, comme l'histoire des bergers qui arrive à la crèche. L'histoire de l'étoile qui s'arrête dans le ciel. Tout ça, c'est une manière dont les gens de l'époque ont conduit les gens de l'époque de communiquer ce qu'ils percevaient de Jésus dans un contexte. Alors, est-ce que c'était familial, villageois, j'en sais rien. Mais il y a là un terreau, quelque chose qui parle aux gens. Et ça, c'est le langage que comprennent les enfants. Donc, on ne leur dit pas des mauvaises histoires. Ce qui fait que quand j'invente un nouveau conte, en fait, je m'inspire un petit peu, je rejoins des manières de dire des évangiles sans en avoir le caractère profondément inspiré. C'est des histoires qui me viennent comme ça. Elles valent ce qu'elles valent. Puis les gens les utilisent ou les utilisent pas. Mais j'ai constaté, en particulier quand j'étais pasteur de paroisse, que généralement, ça faisait mouche. Et c'est ça qui est important. Les enfants écoutaient volontiers, mais ceux sur qui ça faisait mouche, c'était les adultes qui étaient là. Il
Oui,
faut
ben
pas.
on va le voir avec vos thèmes justement, parce que je les ai lus, ces contes, et j'ai dégagé des thèmes. Et alors, bon, on va les passer en revue. Les histoires sont assez classiques, comme on peut s'attendre pour des contes pour enfants, avec axe principal, si on peut résumer, c'est la condamnation de la richesse en général ou de l'égoïsme. Qu'entraîne la richesse. Et donc, c'est pas un mauvais thème, mais est-ce que Noël est le meilleur moment pour parler de ça, pour parler de l'égoïsme des riches? Est-ce que, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'en faisant un thème de Noël, on ne risque pas de le marginaliser
C'est
ce jour-là?
que justement, c'est un des problèmes de nos Noëls actuels, de notre civilisation occidentale du 21e siècle, c'est qu'on a des Noëls qui, dans la plupart des cas, jouent sur la richesse, sur le somptueux, et ne sont pas dans la simplicité de la rencontre avec autrui, du simple morceau de pain qu'on échange. Et c'est ça qu'il faut retrouver, essayer de dire dans un conte. C'est différent de l'amas de cadeaux devant un sapin, de la grande boostify de Noël. C'est ça qui est important. Donc, avec le conte, on arrive à le dire. Parce qu'il y a le contraste. Est-ce que les gens toujours le perçoivent? Je l'espère. On essaie de semer une petite graine.
Oui, alors d'un côté, donc vous laissez de côté le côté commercial, etc. Et puis de l'autre côté, vous laissez aussi le côté dénonciation de la richesse dans un sens plus politique. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez le compte pour dire ce que vous avez envie de dire,
Et de la
mais
manière, voilà, un peu par la bande.
voilà.
Au lieu d'entrer par la grande porte, j'entre par derrière.
Oui, mais on va le revoir parce que ça, je l'ai constaté aussi et on va en reparler. Alors, dans vos contes, moi, j'ai trouvé deux types, en fait, de réponses. Certaines histoires ne durent que le soir de Noël. On reçoit les malheureux et puis on n'en entend plus parler. On ne sait pas s'ils seront toujours malheureux, mais bon, c'est la fête de Noël, c'est la magie de Noël. Et puis, il y a des autres où il y a une véritable conversion de la part des acteurs. Et alors, si je vous disais qu'en lisant ça, j'ai compris que votre souci, c'était plutôt les riches donc, qui sont appelés à la conversion, plutôt que les pauvres qui sont un peu là comme catalyseurs. Est-ce que je me trompe sur vos intentions ? Parce que j'ai l'impression que la misère, vous la voyez surtout du côté des riches ou des classes moyennes. Mais pas tellement du côté des pauvres.
Alors ça, je ne sais pas. C'est intéressant ce que vous me dites, parce que j'y ai jamais songé. Comprenez, quand j'en suis à mon compte, je le lis, et puis le comble, c'est que mes comptes, je les oublie. Pour avoir cet entretien actuellement avec vous, il a fallu que je relise les comptes que j'ai publiés là. C'est mon deuxième volume de comptes publiés, il y en a une vingtaine d'autres qui ont été composés depuis, que je fais un par année, mais je ne me souvenais plus, puis je me dis, mais c'est quoi cette histoire ? Oh tiens, quelle drôle d'idée ! Ah ben, je ne me souvenais pas d'avoir eu cette idée-là. Voilà.
Mais vous vous rappelez bien quand même que dans certaines, il y a des véritables conversions.
Ah oui ? Oui. Voilà. Ben oui. Tout d'un coup, ça m'est venu comme ça. Quelqu'un qui change.
Oui, c'est-à-dire que par moment, effectivement, on sent que Noël, c'est pas un seul moment, ça se prolonge et ça va durer toute la vie. Je pense à un conte où vous faites se rencontrer un jeune homme qui est seul, qui tombe dans la délinquance, et puis sa victime qui va le voir et qui l'adopte. Bon, donc là, le soir de Noël, évidemment, ça s'est passé le soir de Noël.
Mais oui,
et ça se poursuit.
Il y a une histoire, on me l'a racontée pour vrai, que je tiens pour symptomatique de Noël, et je ne l'ai jamais racontée, mais ça s'est passé à Strasbourg, dans un des temples de Strasbourg, ou alors en Alsace, je ne sais pas, où il y avait deux notables, tous les deux protestants, qui ne pouvaient pas se voir. Et ils se sont trouvés tous les deux au culte de Noël qui était suivi de la célébration de la Sainte-Cène. Et quand ils sont approchés de la table où il y avait le pain et le vin, ils se sont trouvés l'un en face de l'autre. Ils se sont regardés et avant de communier, ils ont le mouvement de se serrer la main. Je trouve que c'est une histoire de Noël fantastique, ça.
Oui. Et ça se passe
tout simple. Et puis tout y est quoi.
Mais quand vous racontez, on vit l'histoire, on la ressent. On est un peu comme un enfant qui écoute ou un adulte. Mais l'adulte redevient enfant quand il écoute l'histoire, d'une certaine façon. Enfin, il a la perception de l'enfant. L'écrit ne rend pas cette poésie, c'est un problème.
Et l'écrit, c'est le réceptacle de ce que j'ai fait, mais il faut aussi dire que peut-être mon goût pour raconter des contes, qui est un genre différent de la prédication, qui peut être suivi d'une mise en scène. Dans la dernière paroisse, j'avais été pasteur avant d'entrer de faire un retour complet dans le professorat. J'avais goupillé une affaire. Je m'étais arrangé avec le facteur du lieu. Je ne sais plus quelle histoire je racontais, mais il entrait au milieu de mon histoire pour m'apporter une lettre. Oui, le facteur du lieu.
Oui, c'était une mise en scène.
Qui était un bon protestant à côté. Ça se voyait bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait un jeu de scène. Seulement, ce qu'il faut que je dise, c'est que avant de songer à faire la théologie, je voulais faire du théâtre.
Ah !
Voilà.
D'accord.
Donc, il y a des relents de théâtre dans toute mon histoire.
Oui. Et alors, on a parlé des enfants et le fait justement de devenir enfant ou de redevenir enfant en écoutant. Et le théâtre, c'est aussi ça. J'ai constaté aussi dans vos histoires le rôle primordial de la famille. Ça se passe très souvent en famille et souvent, c'est l'influence des enfants qui vont dénouer finalement le problème, la misère, etc. C'est les réflexions des enfants. Et alors, je me demandais si c'était comme ça que vous voyez la famille. Est-ce que pour vous, la famille, c'est vraiment le centre presque de la vie chrétienne, enfin de, mais pas la vie chrétienne dans le sens rituel, etc.
Alors, nous avons le privilège d'avoir des rencontres familiales. On va en avoir une bientôt avec nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est un grand privilège de pouvoir avoir des rencontres familiales. Et puis, ils s'entendent bien en général. C'est pas mal. C'est un gros privilège. Ce qui fait que pour nous, ça a toujours été un bon moment. Il y a des moments comme ça dans l'année. Ben, Noël, il y a une fête de famille. Alors, on peut pas. Je vois pas, pour mon contexte où je vis, dans mon périmètre, Noël sans la famille. Alors, évidemment, vous me direz, c'est pas toujours comme ça. Ben non. Par exemple, les 3 années où j'avais été suffragant à l'oratoire du Louvre à Paris. Ben là, nous n'avions pas de Noël familial. Mais il y avait le Noël du quartier idéal qu'on organisait avec la paroisse locale, Saint-Eustache, où on servait 1 000 repas.
Oui.
Et là, j'avais raconté un conte de Noël. Il y avait un curé qui célébrait la messe. Moi, j'ai raconté un conte de Noël pour les gens qui étaient là. Je ne sais plus lequel.
Mais
Et ça,
je me rappelle d'un pasteur où j'étais quand j'étais jeune adulte. Il racontait des contes de Noël. C'était une tradition dans le protestantisme. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Ça fait longtemps que j'ai plus été à un arbre
voilà.
de Noël.
Je n'étais pas sûr que c'était aussi une tradition dans le protestantisme du Midi, mais c'était une tradition chez nous, en Suisse romande. En tout cas, dans l'église vaudoise, Neuchâtel aussi, Genève probablement, les pasteurs jadis racontaient un conte de Noël. Puis au moment, on dit, oh, c'est pas sérieux, c'est des gamineries. Mais non, il y a là un genre littéraire qui, à un certain moment, étant donné le contexte, permet de dire quelque chose. Il faut en
Bien.
profiter.
On va parler justement du genre littéraire, mais nous allons faire une pause musicale. Bon, donc vous avez choisi un morceau de Bach, Jésus, mon ami. Nous allons donc écouter ce morceau.
Thank you.
retrouvons Bernard Raymond qui nous parle de ses contes de Noël. Mais je voudrais qu'on vienne sur le genre littéraire, puisque vous venez parler de genre littéraire. Donc, le conte aussi, c'est finalement le retour un petit peu la tradition orale qui était au moment de Jésus et des apôtres et la première église chrétienne.
Oui, mais enfin, la tradition orale, s'il n'y a pas des échanges de paroles quand on est ensemble, ça l'emporte quand même sur l'écrit. Alors, il se trouve que les contes, je les écris pour donner, je les ai publiés parce qu'on m'a dit, mais tu racontes des histoires de Noël, on ne pourrait pas en profiter, parce qu'il y a des gens qui profitent de ces recueils et les utilisent. Et quand j'ai des amis qui me disent, ou des connaissances qui me disent, je dis, mais il faut y mettre votre touche à vous, hein, votre touche à vous. Ce n'est pas ma manière à moi qui compte, c'est votre manière à vous de raconter qui est d'abord.
C'est ça, moi, c'est-à-dire qu'il... Il faut s'émanciper.
Je donne l'histoire, mais il y a la manière de la raconter. On peut être bref ou on peut être long. Il y a les intonations, il y a les gestes. Tout ça, ça joue comme au théâtre.
Oui, et donc il faut garder une certaine liberté par rapport au texte écrit, puisque la vraie tradition orale, il y a une liberté, et c'est pour ça que justement dans la Bible, on retrouve beaucoup de choses qui ne sont pas écrites de la même façon ou qui ne sont pas racontées de la même façon.
Bon, alors, remarquez que le conte est un genre littéraire qui, si je vois bien, est en train de refaire surface. Il y a un des parcs de la région lausannoise où, en été, je vais m'y promener assez souvent, et en été, c'est le samedi, sauf erreur, il y a des îlots de conteurs ou de conteuses. Puis ils s'arrêtent, puis il y a des gens qui sont là regroupés autour d'eux et ils écoutent. Alors, bon, moi je ne me suis pas arrêté parce que je n'ai pas une ouïe suffisante maintenant pour bien suivre ce qui se dit en plein air, puis je continue ma promenade. Mais je trouve intéressant que le genre conte et continue à retenir l'attention des gens. On se dit, là, il y a une façon de dire qui permet de dire certaines choses.
Oui, et je reviens maintenant au contenu, au contenu du conte, et dans le déclencheur de la conversion, parce qu'il y a souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent une conversion dans vos histoires, et le déclencheur de la conversion, moi je m'attendais quand même à voir un petit ange qui descend, la rencontre avec le divin, etc. Et non, c'est la rencontre avec l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'autre qui déclenche la conversion, l'inattendu. Et je n'ai pas trouvé…
La conversion ou le changement, quoi. Je vais éviter le mot conversion qui est trop chargé. Mais ça opère un retour sur soi, un déblocage, c'est un moment où il se passe quelque chose. Dans le fond, ceux qui ont écrit les évangiles, ils ne connaissaient probablement pas le mot conversion. Vous avez bien de la chance.
Ah, conversion, moi, je l'emploie dans le sens justement de retour vers soi. Voilà. Alors, pas effectivement conversion dans le sens comme on l'emploie trop souvent.
Oui, dans les évangiles, il y a un langage très simple.
Oui. Mais alors justement, comme je reviens, donc il n'y a pas irruption du divin, sauf si on voit le divin dans l'autre. Et puis, il y a quand même parfois un peu de merveilleux quand même dans vos histoires. Mais finalement, assez peu. Et moi, ce que je trouve, c'est que dans vos contes, on y voit l'homme tel qu'il devrait être en tant que créature de Dieu. Plutôt en tant qu'humain, plutôt qu'en tant que créature de Dieu. C'est-à-dire que finalement, on pourrait presque se parler on pourrait presque se passer de Dieu si on était vraiment homme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est vrai. Dans mes comptes, je n'ai pas l'idée de. Genre, j'essaie d'éviter d'en faire des prédications. Je ne sais pas. Votre remarque, c'est vrai. Je n'avais pas été attentif. C'est ça qui est curieux, c'est que un théologien, il retourne des concepts, des idées. Puis pour moi, le conte de Noël, c'est une espèce de fraîcheur où je me trouve à mon aise, voilà.
Oui, mais c'est intéressant. Mais pour faire partager aux auditeurs, j'ai donc dégagé un petit peu l'ambiance. Enfin, j'ai donc essayé de dégager un petit peu ce dont vous parlez, ce qui revient. Et ce qui revient, eh bien, c'est quand même des thèmes, disons, bibliques. C'est un petit peu. On retrouve quand même Dickens avec Scrooge, ou le film It's a Wonderful Life de Capra, quand même avec ce jour de Noël. Et vous racontez la rencontre avec l'islam, vous racontez le souci de l'immigré, vous en faites même par moment un cinquième mage. Eh oui. Je ne savais pas qu'il y en avait eu quatre, hein, mais vous allez peut-être nous le dire. Et puis, même le respect dû aux animaux. C'est-à-dire que dans vos contes qui sont assez traditionnels, vous en profitez quand même pour… on sent vos… Comment dirais-je, moi, ce qui vous motive, on sent le message biblique par derrière.
Ben oui, on essaye toujours de faire bouger les choses. Mais nécessairement.
Et alors, ce cinquième mage, justement, parce que vous parlez à un moment d'un cinquième mage… C'est un immigré asiatique. Mais alors dans l'histoire, vous dites, vous faites arriver ce cinquième mage, mais c'est quoi le quatrième mage, au fond? Parce qu'avant d'avoir le cinquième, moi, je ne savais pas qu'il y avait un quatrième mage. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez inventé totalement? Ou est-ce que c'est une légende quelque part que vous avez entendue
Une idée qui m'est venue comme ça, puis je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, parce que vous auriez pu faire venir un quatrième mage.
Pourquoi est-ce que j'ai dit le cinquième et pas le quatrième? Je ne sais pas.
Ah ben, au moins, vous relevez l'attention du lecteur, parce que je me suis dit, mais mince, est-ce qu'il y a quelque part une histoire avec un quatrième mage? Est-ce qu'il y a une… Non.
Oh non, ça m'est venu comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'y avait pas de quatrième mage.
Alors, sur ce, on va faire une seconde pause.
Je suis d'une candeur épouvantable. Donc... mais il faut être candide pour les contes de Noël, vous comprenez. Il faut être candide.
D'accord. Eh bien, on va faire une seconde pause musicale. Donc, je vous propose un morceau de Simon & Garfunkel, qui est 7 o'clock news, Silent Night. C'est un morceau que j'aime bien parce qu'on entend des informations glauques comme on peut entendre aux informations, et puis avec ce thème de Silent Night, qui douce nuit, sainte nuit, etc., qui est lancinant et donc qui annonce l'arrivée du Messie. On écoute donc ce morceau.
Says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, The U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
Maintenant, Bernard, donc on arrive à deux fables théologiques que j'ai retenues. J'ai trouvé donc deux fables plus théologiques que les autres. Alors, il y en a une qui égratigne les créationnistes, et puis l'autre qui évoque le thème difficile de l'humanité avant le christianisme. Alors, on peut peut-être commencer par la première. Donc, la première, c'est un dialogue entre un croyant, on se doute que c'est vous, et puis un scientifique athée qui se sert du créationnisme pour justifier son athéisme. En gros, il dit « on sait bien que le monde n'a pas été créé en 6 jours, donc tout ça, ce sont des balivernes. »
Si je me souviens bien de l'origine de ce conte, doit m'être venu à l'esprit au lendemain d'une discussion que j'avais eue avec un ami qui était plus ou moins créationniste. Et puis, ces contes, je dirais, toujours lus dans les fêtes de famille et dans mes petits-enfants qui ont tous une formation universitaire ou semblable, c'était une bonne chose de les mettre devant ce thème, parce qu'il y a des tas de malentendus. Alors, si on arrive à dire les choses de façon simple à Noël, sur ce point, en imaginant un dialogue, c'est l'occasion ou jamais.
Oui, là, vous faites passer un message et vous le faites passer. Et c'est un message qui est important parce que ça revient tout le temps, cette histoire-là. Les gens qui vous disent « Ah, mais la Bible, ce sont des balivernes parce que le monde n'a pas été créé en 6 jours, comme oui. Le disent les créationnistes. » Évidemment.
Voilà.
On est bien d'accord.
Voilà.
Voilà. Et puis l'autre, vous faites un parallèle, vous parlez de la préhistoire et le thème très sérieux, est-ce que les hommes préhistoriques faisaient partie de l'alliance de Dieu puisqu'ils étaient bien avant le Messie? Alors, vous faites un parallèle assez bien vu entre les grottes de la préhistoire et la crèche de Noël. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
C'est que pour moi, c'est un des sujets qui ne cesse de m'intéresser, les hommes de la préhistoire, l'Homo sapiens ou bien l'homme de Néandertal. Et l'autre jour, je voyais une émission de plus, une dernière découverte sur l'homme de Néandertal, en particulier sur les probables sépultures de l'homme de Néandertal, qui remonteraient à probablement 450 000 ans, donc c'est avant l'Homo sapiens, hein.
Oui, bien sûr.
Donc, il y a dans l'homme de Néandertal, dans ce qu'il est, probablement il y a eu, comme dans l'homo sapiens, il y a, dans son apparition, il y a 200 000 ou 300 000 ans, il y a une sensibilité, une perception de ce qui allait devenir, donner lieu aux différentes religions. Il y a donc de la religion, mais qui n'a pas été mise en forme, formalisée, de toutes sortes de manières. Et c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai essayé de dire ça dans le conte de Noël, parce que je savais que c'était un des thèmes qu'on discutait.
D'accord, oui, mais c'est moi j'ai beaucoup aimé ce parallèle finalement entre les grottes et la crèche. J'avais jamais pensé à ça.
Oui, ben voilà. Parce que la crèche, c'est ceux qui ont imaginé cette scène de la crèche à Bethléem, c'est quelque chose d'invraisemblable. Mais oui, parce que c'est Marie, elle était enceinte, de qui? On ne sait pas. Joseph, bon, c'est un bon type qui était là, on ne sait pas. Et tout ça, ça a été raconté des années après, sur la foi de choses qu'on leur a dites, de ce qu'on croyait savoir, de ce qui s'était éventuellement passé. Voilà.
Eh bien, je vous remercie. Alors, on va s'arrêter là, puisque c'est le moment de s'arrêter. On pourrait parler encore des heures entières. Alors, ces contes sont publiés. Ça s'appelle « Histoire à dire et à lire ». édition Ouverture en 2012, par exemple. Il y a d'autres recueils. Si c'est compliqué et si vous les voulez, ben vous nous contactez à la radio, on vous donnera les références. Alors, merci Bernard Raymond et merci à nos auditeurs que nous retrouverons dans 15 jours à la même heure. Merci à tous.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.